C'est qui l'invité dans la chemise à rayures?
Aucun souvenir.
Oh, je me rappelle plus non plus. Hein.
Philippe, c'est qui l'invité dans la chemise à rayures?
Bon, vous m'avez fait un conducteur. 30 secondes.
Oh purée, ça va être à nous. Oh, Elsa, t'as le café à côté de toi?
Les feuilles, vite, range.
Il y en a plus.
Oh non, il n'y a plus de café là.
Attends, on en fait après l'émission.
Les jours.
Ce gars, c'est
tout
franchement.
Je m'en fous, j'ai pas le temps.
Bip. Bip. Bip.
Allez, on y va.
Je suis pas réveillée.
5 secondes.
Allez, dernière fois. Zou.
Allez, les gars.
À tous,
on y va.
Allez, c'est parti. Bonjour à tous et à tous, on n'est toujours pas réveillés, on baille au moment où le micro s'allume, c'est une catastrophe. Mercredi 25 janvier déjà que le temps passe, c'est bientôt la fin. Au sommaire de notre émission, la chronique du mercredi 3 à 246, deuxième partie de l'immersion dans les livrets ouvriers du 19e siècle à Sainte-Afrique, et ça ressemble déjà à une forme de fichage des individus ça. La chemise à rayures d'Elsa de Cour lorgnera du côté du front de gauche qui organise vendredi un petit déjeuner conférence de presse, puis un tractage sur le marché pour interpeller les Sud-Aveyronnais sur l'emploi dans le département. Elsa Gourmand nous en promet des vertes, des pas mûres et peut-être même des sacrements avariés dans sa soupe aux choux et fadaises. Et moi, je me la joue ultra facile, j'ai le beau rôle dans l'histoire, je choisis de la musique. Et on y va fort avec Zedrus, il paraît, d'après lui, que les femmes ne sont jamais contentes, qu'il leur manque toujours quelque chose.
Il manque toujours quelque chose aux femmes, il faudrait les aider. Il manque toujours quelque chose aux femmes, il faudrait leur trouver. Un poète pour les insulter, un clown pour les torturer, un funambule qui saura les rattraper, un aventurier qui saura les rassurer, un assassin sans mobile qui saura les épargner, une brute habile qui saura les caresser. Elles seront jamais satisfaites, c'est un drame, elles seront jamais parfaites. Pourtant, il n'y a rien de plus beau que les défauts d'une femme. Il n'y a rien de plus beau que les défauts d'une femme. Il n'y a rien de plus beau que les défauts d'une femme. Il manque toujours quelque chose aux femmes. Il manque toujours quelque chose de femme. Il manque toujours quelque chose de femme. Il faudrait leur trouver un héros qui garde les enfants, un prince charmant pas trop chiant, un mari violent mourant, un amoureux pour qu'elles soient les plus belles, un macho pour descendre des poubelles, un cul-jat pour les poursuivre quand elles veulent rester libres. Il manque toujours quelque chose de femme. 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 Il faudrait leur trouver un amant qui joue à la poupée, un inconnu, et si elles veulent l'oublier, un savant sportif, artiste doux et passionné, ou personne, car elles nous ont pas sonné. Mais elles seront jamais satisfaites, c'est un drame, elles seront jamais parfaites. Pourtant, il n'y a rien de plus beau que les défauts d'une femme. Il n'y a rien de plus beau que les défauts d'une femme. Il n'y a rien de plus beau que les défauts d'une femme. Il n'y a rien de plus beau que les défauts d'une femme. Il manque toujours quelque chose de femme.
Zedrus, il manque toujours quelque chose aux femmes. Bon, voilà. Moi, il me manque un petit café. Philippe en a amené qu'à Chloé. C'est ça, la solidarité de caste. C'est hallucinant, quoi. En tout cas, moi, ça me manquerait si elle n'était pas là. Elsa Gourmand et son chou et fadaise.
Chou.
Fadaise.
Bah, pourquoi chou?
Bah, parce que feuille.
Ah!
Bon, on va pas déroger à notre petit rituel, hein, tour d'horizon des quotidiens de ce mercredi 25 janvier. Alors Sarkozy fait un pet de travers, émet un doute, justifié par ailleurs. Broie du noir, pourtant avec sa politique d'immigration il en a l'habitude, a le bourdon et voilà que la presse s'empresse de répercuter cette baisse du moral élyséen. Le Monde, Nicolas Sarkozy et l'UMP saisis par la peur de la défaite. Libération pose une question avec une photo du président, le regard inquiet, déjà abattu. Lors d'un moment de confession très inhabituel, le président a envisagé sa défaite ce week-end en Guyane. « Vous ne me verrez plus », a-t-il dit. Pour le Figaro, hors de question de se laisser abattre. L'apitoiement n'est pas de rigueur. Sarkozy dénonce le matraquage fiscal de Hollande. Le chef de l'État, plus déterminé que jamais, passe à la contre-offensive. Si c'est pas du déni, ça. C'est en ombre chinoise que l'humanité représente le chef de l'État, tête baissée, pour parler de la politique culturelle. Ceci n'est pas une politique culturelle, titre le quotidien. Nicolas Sarkozy s'est présenté hier comme le défenseur des créateurs. Désengagement de l'État, RGPP, rentabilité des salles et des artistes, il orchestre au contraire la privatisation de la culture. Sarkozy qui partage la une de l'UMA avec Jean-Luc Mélenchon, le poing levé, en train de parler dans un mégaphone. Jean-Luc Mélenchon en direct avec les ouvriers franc-comtois. Je peux pas m'empêcher. Le Parisien, loin de l'agitation politique, a plongé dans les entrailles du Concordia avec la photo de deux plongeurs dans les eaux bleues. On cherche les dernières victimes du naufrage. Et pour vous remonter le moral, vous pourrez toujours, dans Le Parisien, lire les confidences de la compagne de François Hollande, Valérie Trierweiler, qui va animer une émission culturelle sur Direct 8 et qui évoque sa vie aux côtés de son candidat de compagnon.
Paraît qu'elle a un bureau dans le QG de campagne du PS, un grand bureau à côté de François Hollande. Bizarre, je trouve. Ouais. Franchement, ouais. Enfin bref.
Et puis chez nous, dans le Midi Libre, nous avons droit à une belle photo du viaduc de Millau avec en premier plan des coquelicots. C'est joli tout plein. Deux viaducs pour séduire l'UNESCO. Les viaducs de Millau et Garabit souhaitent être inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Ça fait une petite manif.
Hein. Ouais. Je sais pas comment ça parle, les viaducs.
Au patrimoine de l'UNESCO. Ouais,
bah voilà. Un long travail de lobbying commence pour faire reconnaître ces deux exemples du génie industriel français, madame.
Et toi, tu vas avoir monsieur Guesso au téléphone aujourd'hui,
tout à l'heure,
je crois, Elsa.
Normalement.
Un ministre.
Alors, pour bien continuer cette journée, je vous propose d'étudier avec Jacques Julliard trois raisons non partisanes, le non partisan est important, de voter contre Nicolas Sarkozy. L'éditorialiste de Marianne commence par nous conter une petite histoire. Un jour qu'il me recevait à l'Élysée, il y a de cela 2 ans, Nicolas Sarkozy me déclara tout à trac. « Je veux que vous le sachiez, je suis hostile au deuxième mandat présidentiel. »« Diable, sursautai-je, et pourquoi donc ?» Parce que ce qu'un président n'a pas su faire en 5 ans, il ne le fera pas ensuite. Les deuxièmes mandats sont toujours médiocres. Voyez Mitterrand, Chirac et même De Gaulle. Je dois donc en conclure que vous ne serez pas candidat à votre succession en 2012. Pas si vite ! L'homme qui se présentera alors ne sera pas Sarkozy 2, mais un homme nouveau avec un nouveau programme.
Comment jouer avec les mots ?
Alors ce que Jacques Julliard retient de cet entretien est qu'il ne faut pas élire 2 fois le même homme. Si l'élection est l'honneur de la démocratie, la réélection est son fléau. Et tous les présidents se ressemblent sur ce point, ils sont lucides, sauf quand il s'agit d'eux-mêmes. Deuxième raison pour ne pas réélire Napoléon. Son échec économique et financier. Sous son quinquennat, la dette est passée de 1150 milliards à 1780 milliards. Bon, il développe, hein, Julliard dans Marianne. Troisième raison, la plus grave. nous dit Julliard, la subversion des institutions républicaines, à savoir la police et la justice. Et le pouvoir sarkozyste n'a qu'un objectif, les mettre au service de sa politique. Les scandales à répétition révèlent un système politico-financier profondément gangréné au service d'un seul homme et des intérêts d'un seul clan. Nous sommes, nous dit Jacques Julliard, au-delà de l'affrontement politique normal. Nous sommes dans le droit commun et la défense des libertés publiques. Il est hélas de la nature du pouvoir politique d'entretenir autour de lui une couche quasi incompressible de passe-droits, de corruption, d'abus de pouvoir. Il est urgent de réagir avant qu'un tel pouvoir s'installe dans les mœurs et dans les esprits. À défaut de l'éradiquer, il faut en changer le plus souvent possible. Alors, devenir français, quelle épreuve, titre un article de Politis. D'ailleurs, en 2011, il y a eu 30% de naturalisation en moins. Cette situation est largement due au durcissement d'octroi de la nationalité française, parmi lesquels la maîtrise de la langue. Pas facile, effectivement, de parler correctement français. Un exemple.
Ouais, 140% en plus, hein !
40%. Qu'est-ce qu'a dit ça ? C'est toi qui a dit ça ? Descends, on peut le dire. Descends, on peut. Si tu crois que c'est en insultant que tu vas régler le problème des pêcheurs, eh ben, permets-moi de te dire. Viens.
Eh ouais, pas facile. Il y en a d'autres aussi qui confondent nativité et natalité. Enfin bon, bref. Mais c'est embêtant, hein, parce que depuis le 1er janvier, les postulants à la nationalité française doivent faire preuve de compétences via un diplôme de niveau fourni par un organisme certifié. Avant, on demandait ce qu'on appelle un niveau de survie aux postulants, et maintenant il s'agit d'un niveau de conversation. En bref, on écrème par les compétences. Et puis l'accès aux cours n'est pas non plus évident. Les associations délivrant les cours devant rogner sur tout, le salaire, les conditions de travail, l'accueil. Alors, il y a Esther Benbassa, sénatrice EELV, ancienne immigrée, qui est née dans une famille juive d'Istanbul, et qui raconte dans un livre qu'elle avait rêvé de la France avant de s'y installer. Et puis, elle fait un constat assez rude. Hein. La xénophobie ambiante s'érige en rhétorique politique qui prend l'islam pour cible, s'indigne-t-elle. S'intégrer, mais à quoi ? Renvoyant la question ainsi de l'identité nationale dans ses cordes. Et si être français, c'était vouloir une France combative, renonçant à son pessimisme. Et si être français, ce n'était pas qu'être français, mais français et autre. En attendant, il y en a qui devraient vraiment prendre des cours de français.
Vous, ah oui, mais c'est... Alors, C'est pas pareil.
Je sais.
Ah ouais, je suis pas gentille. Hein.
Non.
T'avais quelque chose à dire ? Je t'ai vu.
Ah non, pas du tout. Je t'écoute de manière attentive, Elsa, bon. Comme tous les matins.
Allez, on finit avec une petite info tirée du canard au hasard. Douillet sans complexe s'appelle ce titre. C'est le titre de l'article. Moi aussi, j'ai du mal à parler français ce matin.
C'est contagieux ce genre de choses.
Alors, ça se passe dans le Nord, à Fourmies. En 2004, il y a la salle de sport qui est prête à être inaugurée. Il fallait lui trouver un nom et c'est celui de David Douillet qui s'est imposé à la municipalité proche de l'UMP. Triple médaillé olympique, 4 fois champion du monde de judo et avec sa parrain généreux de l'opération Pièce Jaune, un bel exemple hein, pour la jeunesse. Mais le 15 janvier 2004, c'est la douche froide. La ville reçoit cette lettre de Valérie Douillet, la femme du judoka, au nom de la société Ours Blanc qui gère alors l'image du sportif. Je vous lis la lettre. Objet, vente de David Douillet. Madame, monsieur, par la présente, je vous confirme l'autorisation de donner le nom de David Douillet à votre complexe sportif. Concernant une venue éventuelle de David pour une démonstration de judo, cela dépend évidemment de ses disponibilités. Le montant forfaitaire pour ce type d'intervention est de 12 500 € hors taxes et hors frais de déplacement. Restant à votre disposition, très cordialement, Valérie Douillet. Bon, alors là, ça, la douche froide, les élus refusent de serrer la ceinture. 4 jours plus tard, le conseil municipal décide quand même de solliciter une participation gracieuse du judoka. Mais rien à faire, la salle sera finalement baptisée du nom du judoka hors sa présence. Alors à l'époque, rien du tout. En mars 2008, on saute de 2004 à 2008, Alain Berthaud, qui est un ancien du Parti communiste, reprend la mairie qu'il avait perdue en 2001. Et Douya, évidemment, ne fait pas partie de ses héros. Aussi, le conseil municipal, en octobre 2009, décide à l'unanimité de virer Douya et d'offrir au complexe sportif le nom de l'enfant du pays fondateur du club athlétique fourmicien et recordman des Flandres du 4x100 mètres en juillet 52, un vrai héros, celui-là. Et je te rends la parole, Audrey.
C'est beau d'avoir le cœur sous la main comme David Douya. 12 500 euros pour qu'il vienne inaugurer une salle des fêtes.
Voilà.
Ça s'appelle de l'humanitaire. Et oui, Chloé rigole tous les matins, elle. C'est comme ça. Écoute, on va rester dans l'optimisme fou de Kabadzi, qui est notre deuxième CD de la semaine, avec le titre « Avant eux ».
Demain, je penserai sans légende ce qu'il faut penser. Demain, la république des marques déposées sera l'héroïne de mon conte de fées. Demain, je ne verrai même plus qu'un seul choix qu'entre la peste et le choléra. Je dirai ce qu'on m'oblige à dire, je ferai ce qu'on m'oblige à faire. Je passerai mon temps à construire des murs et pas des ponts. Je ferai des ratures sur mes passions. Je ferai partie des sondages, je répondrai aux enquêtes. Je me dirai, je clique donc je suis, je coche des cases. Oui, non, je ne sais pas, je clique et j'y crois. C'est comme ça que je dirai mon président fièrement sans me dire à quoi bon. De toute façon, ça recommencera. De toute façon, on a déjà choisi pour moi. De toute façon, j'arrive toujours en fin de repas demain. Je prêterai ma cervelle de temps en temps. J'essaierai l'ignorance, le grand zapping permanent. Ça ira vite. Ce sera puissant. Je dirai ce qu'on m'oblige à dire, je ferai ce qu'on m'oblige à faire. De toute façon, je n'aurai plus le choix, mon téléphone le fera pour moi. Trouve-moi du pain, trouve-moi du chemin, trouve-moi l'amour et que ça dure toujours. J'aurais beau avoir du bide, des cernes et des rides, j'aurais beau être bête ou cocu, je serais content de croire que j'ai le choix. J'irai moi-même me présenter à Pôle emploi. Je fournirai sans broncher toutes les attestations, tous les certificats, j'irai même trois fois s'il le faut. Je ferai tout ça sans m'énerver, sans porte claquer. Au final, je trouverai un boulot. Je me marierai, j'aurai un pavillon, une bagnole et des gamins qui gravent. Papa, on t'aime sur les arbres du jardin. Le drame, c'est que la bêtise pense et que la bêtise a toujours de l'avance. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que le choix entre la peste et le choléra? La bêtise a déjà choisi pour moi. À la fin de mon corps, une galerie marchande. Faut se vendre, alors j'irai me vendre. Faut sauver sa peau, je sauverai ma peau. Faut être heureux, je serai heureux. Faut être content, je serai content. Je ferai ce qu'on m'oblige à faire. Dirai ce qu'on m'oblige à dire. Je ferai ce qu'on m'oblige à faire. Je dirai ce qu'on m'oblige à dire. Demain, je collectionnerai des points cadeaux sur mon frigo comme autant d'espoir de gigolo. Je serai filou, je ferai fi des petits mensonges de la vie, je dirai. J'adore ce que vous faites, je dirai. Merci patron, je dirai oui, bien sûr, vous avez raison, je dirai. T'es belle, t'es la plus belle, t'es vraiment la plus belle de toutes. Je demanderai sa main et au mieux, je finirai dans un mardi ou bonobo. À excuser mon couple complètement bourré aux buvettes des bistrots. Je me prendrai pour le king en pantoufles et jogging. Je serai Luigi, le Gigi, le chaman de vos nuits. Demain, je ne dirai plus, c'est bien foutu tout ça. Demain, la nuit ne tombera pas sur moi. Demain, je ne laisserai pas entrer tous les fantômes. Je ne dirai pas ce qu'on m'oblige à dire. Je ne ferai pas ce qu'on m'oblige à faire. Je ne foutrai pas en l'air ma dignité. Demain, j'aurai bien plus que le choix entre la peste et le choléra. Demain, la bêtise n'aura pas d'emprise sur moi. Demain, je ne m'entendrai plus dire encore une fois elle a choisi pour moi. Demain, je saurai quoi leur dire. Demain, je les regarderai dans les yeux. Demain, oui, j'arriverai avant eux. Avant eux.
Kabadzi sur Radio Saint-Afrique, avant eux. Avant de partir en vacances, Elsa de Cour a glissé deux sujets dans la chemise à rayures du jour. Le front de gauche entre carottes et navets et le congrès France Nature Environnement.
La chemise à rayures.
Info, invité, reportage.
Sur Radio Saint-Afrique.
«
Samedi a lieu à Paris le 36e congrès de la FNE. France Nature et Environnement, c'est un regroupement de plus de 3000 associations environnementales et locales. Thierry Eladjen est un membre actif de l'association Canopée. Il va se rendre samedi avec de nombreux confrères à Paris. Tâchons d'en savoir plus sur cette journée.
Le congrès est composé de deux tables rondes. Il y aura des interventions de différents acteurs qui sont connus nationalement et même internationalement, notamment Thierry Salomon de l'association Négawatt, Alain Bougain-Dubourg de la LPO, différents acteurs. Donc les participants vont assister à ce congrès pour essayer de construire et de se construire aussi, de construire un raisonnement concernant justement cette transition environnementale et économique. En fait, ça va être des militants qui seront présents, mais il n'y aura pas que des militants, puisqu'en fait, tous les citoyens qui veulent assister à ce congrès peuvent y assister, sont invités cordialement. Et donc, il y aura un questionnement concernant les candidats à l'élection présidentielle, pour voir un petit peu leur positionnement et leurs propositions à venir et pour construire un avenir un petit peu plus serein et peut-être avec une dimension plus humaine. Alors l'écologie, c'est un domaine qui est tellement vaste qu'on déborde vite sur des aspects économiques, bien entendu, et notamment peut-être des développements sur les énergies renouvelables ou bien sur la sobriété énergétique. Ce sont des principes repris par l'association Négawatt, qui est certainement une très bonne piste à suivre et à travailler, je pense, d'un point de vue citoyen et composante d'un pays.
Belle perspective avec des acteurs importants, tous œuvrant pour une transition énergétique. Pour vous allécher davantage, voici un petit aperçu du programme de cette journée.
Alors le programme, la matinée, donc il y aura des allocutions d'accueil, ensuite des tables rondes de 10h à 11h. 10h, c'est trouver des solutions globales à des crises interdépendantes, qu'en fait on est dans un raisonnement global, bien entendu. À 11h, donc, deuxième table ronde, au-delà du Grenelle, avancer avec l'ensemble de la société. Voilà, on reprend bien le thème de la citoyenneté. 12h, 14h, village associatif et un déjeuner. Voilà, visiblement, le ministre de l'écologie sera présent à cette occasion-là. Ensuite, l'après-midi, 14h, placer l'environnement au cœur de l'action gouvernementale, avec des intervenants tels que Borloo, Brice Lalonde, Ségolène Royal, voilà, ce sont des gens que tout le monde connaît, Dominique Vanet. 15h, l'appel des 3000, dans les 3000 associations, pour un contrat environnemental, c'est-à-dire que les responsables politiques seront interpellés et on va leur demander un contrat environnemental de société. Et à 16h, les candidats vont répondre à cet appel. Certains seront présents ou non, on attend encore quelques confirmations, comme Bayrou, Hollande, Eva Joly. Évidemment, ça ira de Bayrou à Villepin jusqu'à Mélenchon. Donc on balaye pas mal déjà. On demande quand même un engagement. Alors aujourd'hui, la crédibilité des politiques, bon, on sait ce qu'elle est. Donc quelque part, ça serait intéressant d'avoir des engagements écrits noir sur blanc. Ça serait pas mal. Avec une forte conviction, mais bon, là, il est certain qu'on les attend au tournant, bien entendu.
Programme riche en couleurs, enfin couleurs vertes hein, surtout. C'était donc Thierry Eladjen de l'association Canopée qui nous a décrit le programme de la journée du 36e congrès de France Nature Environnement qui se tiendra à Paris ce samedi. Ce sera l'occasion pour les vastes réseaux de la FNE de présenter les différentes propositions aux candidats des élections présidentielles sur le thème de la protection de la nature et de l'environnement et d'entendre leurs réactions. Sachez qu'il reste encore quelques places, alors si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter Thierry au 05 65 71 66 85. Le Front de Gauche se mobilise ce vendredi à Millau. Martine Pérez est la secrétaire départementale du Parti communiste français et elle fait également partie du collectif départemental du Front de Gauche pour les élections présidentielles et législatives à venir. Elle nous présente leur mobilisation de vendredi.
Alors vendredi matin, nous avons prévu un petit déjeuner de presse sur le thème de l'emploi parce que nous venons d'apprendre que dans le sud d'Aveyron, il y avait plusieurs entreprises qui prévoyaient des plans sociaux ou des licenciements. Notamment à Creissel avec Roussel Inox. Il y a à Roquefort aussi des menaces qui pèsent sur l'emploi. De nombreux artisans, commerçants sont aujourd'hui en grande difficulté Il y a aussi les annonces faites de suppression de postes dans l'éducation nationale. Donc, nous avons pensé avec nos candidats Jean-Luc Pouget et Carole Joly qu'il était important de faire le point sur l'emploi dans le Sud Aveyron et de présenter nos propositions dans le cadre de la campagne. C'est une conférence de presse et après nous avons prévu d'aller sur le marché faire une distribution de tracts pour appeler à participer au grand meeting de campagne de Jean-Luc Mélenchon qui a lieu le 8 février à Montpellier, où nous avons décidé d'organiser un déplacement en bus. Et voilà, nous allons donner donc toutes les modalités à la presse et à vous pour pouvoir se rendre à ce grand meeting.
Et voilà, le front de gauche se met en marche. Ne soyez donc pas surpris vendredi, si vous faites vos courses au marché de Millau, d'entendre s'élever entre carottes et navets des voix mélenchoniennes.
Je vous rassure, Elsa, de courir parti en vacances, ça lui fera le plus grand bien. Je vous rappelle aussi que vendredi à 18h30, le groupe Droit et Liberté organise une permanence avec un avocat spécialiste du droit dans la rue. Et vous avez la possibilité de laisser des messages, des questions sur notre répondeur. Nous les transmettrons à l'avocat et nous diffuserons ses réponses dans nos prochaines émissions. N'hésitez pas. Puis on va prendre un petit peu d'altitude avec le cerf-volant de Marcel et son orchestre.
Sirotant un jus de tomate et on faisait voler un requin couvert de tatouages dans un ciel immaculé, médusé de coquillages.
Agité par un coup de vent, le chapeau de Marie-Gaëlle l'abandonna subitement pour embrasser une coccinelle.
Elle croquait une pomme d'amour devant le balai aérien des dragons de Singapour ou Pékin, je sais plus très bien.
Moi, pendant ce temps, je voulais des
a dégonflé ses bolos.
L'horrifique Dracula flottait au-dessus des eaux, à proximité d'un trois-mâts tiré par de louches.
Au jeu de questions-réponses, sur le podium de la ligue, on peut gagner les crayons, mais l'animateur nous fatigue.
Iguanodon à la main, Paul tire sa maman de l'autre. Il a repéré le petit train piloté par un astronaute.
Moi, pendant ce temps, je voulais des
convergent n'arrivait pas à décoller, alors qu'un éléphant faisait des loopings impressionnants.
N'en pouvant plus te supporter, les gens pressés dans son échoppe, Lola jeta son tablier pour aller se griller une
couche. Opération réussie, concédait un homme de foi, quand brusquement le vent souleva la jupe de sa femme assoupie.
Pitoyable sursaut d'orgueil, il s'accrocha avec Luigi, qui ravi avait applaudi
la petite culotte Hello Kitty.
À quoi ressemblait le monde ouvrier saint-africain au XIXe siècle? Pour nous en donner un aperçu, Florian Boulet a réouvert les cartons des archives officielles de la mairie de Saint-Afrique. 3A 246, bienvenue.
3A246. Chronique de la Maison de la Mémoire.
Alors, aujourd'hui, on va reparler des livrets ouvriers, mais cette fois vraiment des livrets à proprement parler, parce qu'à la Maison de la Mémoire, on en conserve quelques-uns. Donc, pour resituer, et de toute façon, on le voit, c'est les premières pages des livrets qui rappellent quelques-unes des lois qui régissent le fonctionnement, et donc qui disent que les livrets sont délivrés par les maires, que les patrons doivent inscrire la date d'entrée et la date de sortie de l'ouvrier, que chaque ouvrier, que ce soit un homme ou une femme, qui travaille en usine, en atelier, chez lui ou pour un patron, il doit en avoir un, sinon il ne peut pas travailler. Que chaque ouvrier doit le présenter dès lors qu'on lui demande, que toute autorité lui demande. Et que le livret peut aussi servir de passeport pour l'intérieur. Parce que pour pouvoir voyager à l'intérieur du pays, il fallait un passeport. Et c'est là qu'on voit apparaître une des raisons de la mise en place des livrets ouvriers. C'est que ce sont quand même un moyen de contrôler les ouvriers, notamment itinérants, parce que c'est une période, et c'est valable pour tout le 19e, où la grande obsession et la grande peur de l'État, des autorités, c'est le vagabondage et les vagabonds. Donc ils essayent vraiment de contrôler. Les livrets permettent de retracer la vie des gens et de s'en faire une idée. On voit un Jean Burtin qui donc a fait faire un livret dans l'Hérault en 1875 et que l'on retrouve à Sainte-Afrique en 1879, donc 4 ans plus tard, et qui lui, a priori, correspond assez au profil du vagabond. Parce qu'on voit qu'il fait, en l'espace de 4 ans, il parcourt 17 villes, mais il y reste jamais très longtemps. C'est rarement plus de 20 jours, quoi. Et il y a notamment les livrets, comme je le disais tout à l'heure, ils doivent être à chaque fois, donc il y a la signature du patron, mais il y a aussi le tampon du maire ou du commissaire de police. Et lorsqu'il sert de passeport, il faut préciser la date de destination. Et on voit donc dans le cas de ce monsieur Burtin que très souvent, il est autorisé à ne résider qu'un jour dans les communes. Et il est rarement employé plus de 2-3 jours. Au départ, il se dit cultivateur, et en fait, il est souvent employé comme journalier à faire divers travaux. Et quand il arrive à Sainte-Afrique, il refait faire son livret, donc en 1879. Et dans le registre, en fait, il a changé de profession, il est devenu chiffonnier. Et c'est donc une profession certaines des plus anciennes parlent souvent du payarote. C'était la personne qui ramassait les pots de lapin dans tous les petits villages. Et en fait, c'était un des aspects de la profession des chiffonniers, qui en fait faisait de la récupération, ramassait des matériaux pour les revendre à diverses industries. En l'occurrence, les pots de lapin, ça pouvait servir à la fourrure. Il y a aussi les vieux chiffons, qui eux étaient revendus aux fabricants de papier, etc. Il y avait plusieurs activités. Après les livrets ouvriers, des fois ça fait ressurgir des itinéraires de vie assez surprenants. Et on en trouve un à Sainte-Afrique qui nous a laissé un peu perplexe. C'était un monsieur qui s'appelait Joseph Sorel, qui était tapissier, qui était né à Grenoble, né à Grenoble, qui avait fait faire son livret ouvrier en 1878. Son livret ouvrier mentionne qu'il a fait donc son apprentissage de tapissier pendant 2 ans et demi chez un artisan à Grenoble. Ensuite, il a eu un premier contrat de travail de 3 mois. Et c'est là où ça devient surprenant, parce qu'on trouve... Ensuite, il n'y a plus de mention de patron, mais on trouve le tampon du consulat de France de Savoie avec la date du 9 mai 79 et qui porte la mention « vu et secouru ». Un jour plus tard, apparemment, il devait être à Gênes parce qu'il y a le tampon du consulat général de France et là, il est dit rapatrié. Quelques temps après, on trouve le tampon d'une abbaye et ensuite, à la fin du mois de mai, on le retrouve à Sigean dans l'Aude. Son itinéraire est assez surprenant. Est-ce qu'il a eu... parce qu'en fait, il devait partir au départ pour Mâcon. Est-ce qu'entre-temps, il a eu des ennuis qui ont dû le faire rapatrier? On ne sait pas, on n'en saura sans doute jamais rien. Quoi qu'il en soit, le 6 août, donc 79 de la même année, on le retrouve à Sainte-Afrique, où a priori tout va bien, parce qu'il refait faire un livret, et toujours en qualité de tapissier. « Ensuite, on trouve aussi deux autres personnes qui là sont plus des exemples de, comment dire, de comportement professionnel, on va dire. Notamment Jean Bouzier, qui exerçait la profession de casseur de pierre. Et alors lui, on le voit, il travaille, il se promène un petit peu partout dans le sud de la France au gré des chantiers. Et généralement, il est employé, dans notre région, il était employé lors de la construction des routes du côté de Sylvanès. Aussi, on le retrouve après à Saint-Félix. Et puis enfin, quand il arrive à Sainte-Afrique, c'est pour faire la voie de chemin de fer. Et ça, c'est une caractéristique qu'on retrouve à d'autres occasions. Je pense notamment quand on a construit le palais de justice ou l'hôtel de ville, il y avait beaucoup d'ouvriers qui étaient venus de l'Hérault, juste le temps du chantier, après ils repartaient. Ensuite, il y en a un autre qui s'appelait Basile Rouquette, qui lui était tailleur de pierre, qui était assez jeune, il avait 16 ans, et qui lui est l'exemple de ce qu'on appelait les équipes. En fait, c'était des ouvriers qui, chaque année, à la même saison, partaient travailler dans le sud de la France. Et lui, on le voit partir de Sainte-Afrique, partir travailler à Bédarieux. Ensuite, il va travailler à Agde, etc. Jusqu'au moment où il revient à Sainte-Afrique. Et là, il semble s'installer parce qu'il va travailler plus d'un an et demi chez le même patron. Et après, on n'en sait pas plus parce qu'il a dû refaire faire son livret parce qu'il y avait des petites erreurs dans l'ancien. Et tout ça, donc, ça donne un exemple de ce qu'on connaissait déjà, donc le principe des équipes. Et ça nous rappelle un peu la foire du 4 mai qui, en fait, à Sainte-Afrique, était super importante parce qu'elle était dédiée justement à ça, où les gens, les ouvriers qui n'avaient pas de travail fixe, allaient se louer. En fait, ils allaient chercher un patron pour la saison, quoi. Donc, du coup, les livrés ouvriers, donc, ça donne aussi une vision donc, de ce que ça voulait dire être ouvrier au 19e siècle. Donc, c'est une relative précarité, sans doute, du coup, une certaine pauvreté. Et en même temps, ça va aussi contre certaines idées préconçues, notamment celles qui voudraient que les gens ne bougeaient pas tellement à cette époque-là. En fait, même s'ils n'avaient pas de voiture, que le train n'était pas forcément très développé, on voit que ça ne les empêchait pas de traverser la France assez rapidement.
Euh. 3A 246 Chronique de la Maison de la Mémoire. Avec la participation de toute l'équipe de la Maison de la Mémoire du pays saint-africain. Florian Boulet, Sophie Roumégousse, Julien Cossat, Delphine Diez, Stéphane Géniès.
How did I, how can I, how will I? go. Cause I like the wind and trees and the sunlight in the afternoon. And my butt collections need to find a home. I'm through having your harsh march tear down my sides and punish what young is left in these eyes. Oh, click, clack, clickety, click, 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 oh, clickety, clack, clickety, clack.
Clac d'Aléla Diané, un titre en forme d'onomatopée. Il est l'heure de nous quitter. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, dans 3246, la chronique de la Maison de la Mémoire, Florian Boulet, je prononce bien son nom, a réouvert les livrets ouvriers du Saint-Africain au 19e siècle. Demain, on est jeudi. Jeudi, on laisse la place au tonton flingueur. Je crois que c'est Gilles, Bourouille et Marie. On se retrouve donc vendredi à 10h10 et à 17h10 en rediffusion. On reparlera de théâtre avec qui ? Avec les Molotov, encore eux. Et ils remontent sur les planches, mais cette fois-ci, ils joueront du plot. Et oui, voilà, ça m'intrigue. Donc, il faut écouter l'émission vendredi matin. Et puis, afin de vous éviter une trop grande déception, sachez que la semaine prochaine, nous mettons l'émission en pause. Nous ne blablaterons pas dans les micros. Alors, si on vous manque, vous pourrez nous le dire. Et puis, si on vous manque pas aussi, voilà, vous pouvez nous envoyer des petits mails, je sais pas moi, et ou nous contacter via le site internet. Alors, Gabriel, qui nous observe patiemment, scrupuleusement, depuis lundi dernier, a voulu terminer cette émission en mode roots rock reggae avec Israel Vibration.
Running to